France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Il a débuté dans Macbeth. Il a écrit son premier scénario, Crépuscule d'épouvante, tourné ses premiers films, Ouragan sur la montagne, La machine à faire la vie, grâce à l'argent d'un moutardier bordelais farfelu. Le cinéma s'inventait, le cinéma muet, bien sûr. Alors que Pathé Film vient de sortir en DVD et Blu-ray trois films restaurés de Julien Duvivier, La belle équipe, avec Jean Gabin, Charles Vanel, Voici le temps des assassins, le même Jean Gabin, Daniel Delorme, Gérard Blin, Lucienne Bogart, et La fin du jour, Louis Jouvet, Michel Simon, Madeleine Auzeray, Victor Francen, Gabriel Dorzia. Voici une série d'entretiens proposés par Charles Ford et René Jeanne en 1957 sur la chaîne parisienne. Début au théâtre, rencontre avec Antoine, de très nombreux films, dont une adaptation d'un roman d'Irène Némirovski, David Golder, Poil de carotte de Jules Renard, mais aussi Les cinq gentlemen maudits et également des films édifiants dans l'esprit catholique qui avait marqué son enfance. La vie miraculeuse de Thérèse Martin, Credo ou La tragédie de Lourdes, l'abbé Constantin, etc. Voici cette nuit les quatre premiers volets d'une série d'entretiens. Première diffusion de ce premier entretien le 15 avril 1957.
La radiodiffusion télévision française présente Entretien avec Julien Duvivier, une émission de René Jeanne et Charles Ford avec la collaboration de Simone Beauvois. Aujourd'hui, premier entretien.
Mon cher Duvivier, je suis content, nous sommes contents, Ford et moi, de vous avoir avec nous devant ce micro.
Vous m'y avez traîné.
Oui, mais c'est une preuve d'amitié que vous nous avez donnée en consentant à y venir. D'ailleurs, cette amitié, en ce qui me concerne particulièrement, est longue avec vous, car nous nous connaissons, je n'ose pas dire depuis combien de temps.
Oui, ne parlons pas de ça, si vous voulez.
Alors, si vous voulez, je vais évoquer un souvenir très précis, qui est celui sous l'aspect duquel je vous vois chaque fois que je pense à vous. Cela se passait en 1937. C'était à Venise, au moment de la Biennale de Venise. J'avais été envoyé là-bas par le ministère de l'Éducation nationale et celui des Affaires étrangères afin d'y représenter le cinéma français et les intérêts des auteurs et des producteurs français. La compétition était brillante, était sévère, et je pensais que votre film, Le carnet de bal, devait avoir de grandes chances d'en sortir dans de bonnes conditions. J'avais obtenu qu'il fût inscrit au programme de la dernière soirée. Et d'ailleurs, vous ne pouviez pas arriver avant. Et c'est le dernier jour du festival, que vous êtes arrivé à Venise. J'avais organisé un dîner pour vous, où j'avais réuni tous les Français qui se trouvaient là-bas. Cela se passait sur la terrasse de l'hôtel Excelsior. La soirée était splendide, la nuit merveilleuse. Et tout d'un coup, vous êtes arrivé. Vous étiez en tenue de soirée, comme il était de rigueur pour ces solennités. Tenue de soirée d'été, car ça se passait au mois de septembre. Et dans votre Spencer blanc,
mon Dieu,
vous aviez l'air d'un jeune étudiant d'Eton. Vous aviez l'air d'avoir 18 ans. Cette jeunesse était vraiment merveilleuse. Vous l'avez conservée et je vous en félicite.
Mais, cher René Jeanne, les souvenirs que vous évoquez là remontent à 1937.
Exactement.
J'ose dire seulement à 1937. Et je pense qu'il faut commencer par le commencement, parce qu'en 1937, Julien Duvivier était déjà le metteur en scène célèbre qu'il est toujours, mais il avait fait des tas de choses avant. Monsieur Julien Duvivier, nous savons tous que vous êtes né à Lille, mais nous voudrions surtout savoir comment vous êtes venu de Lille à Paris.
Ben, vous savez, c'est assez compliqué. D'abord, il faut vous dire que je suis d'une famille flamande. Je vous dis ça tout de suite parce qu'il paraît que j'ai la réputation d'avoir un sale caractère. N'est-ce pas? Ah. Bien, mon grand-père était flamand et il était marchand de chaussures rue de Bandeved à Lille. Et je vois encore très bien l'inscription sur la vitrine « Hier spricht man Vlaams ». Ça veut dire « Ici, on parle flamand ».
Mais c'est pas gentil pour les flamands, ce que vous dites là. C'est parce que vous avez mauvais caractère que vous dites
non,
que vous êtes flamand.
Non, parce que les gens du Nord sont têtus et renfermés, n'est-ce pas?
Il n'y a pas que.
Et c'est à cause de ça, peut-être, qu'on croit qu'ils ont mauvais caractère. Ce qui est absolument faux. Enfin, moi, vous savez, j'étais à Lille, j'étais un enfant comme tout le monde, et puis alors j'aimais beaucoup le théâtre, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, puisque... Dans toute mon enfance, je n'ai jamais eu la possibilité d'aller au théâtre. J'étais d'une famille très, très conformiste, ma foi, et le théâtre, c'était un petit peu, comme vous savez, l'enfer, n'est-ce pas? Alors, je n'y allais pas. C'est seulement quand je suis parvenu un petit peu à l'âge de sortir seul que j'ai pu faire la connaissance du théâtre. J'aimais déjà ça beaucoup avant.
Mais comment l'aviez-vous connu?
Mais ma foi, je n'en sais rien. Je le connaissais à travers les journaux et je m'étais enflammé pour ça. Et alors, à ce moment-là, j'allais tous les dimanches au Grand Théâtre de Lille. Et le Grand Théâtre de Lille avait cette particularité, le dimanche, de donner des spectacles qui commençaient à 5h de l'après-midi et qui se terminaient à 2h du matin. Et on y donnait trois grandes pièces, par exemple Les Pirates de la Savane, qui était un mélodrame en 6 actes et 12 tableaux. On donnait Faust. Et on donnait le comte de Luxembourg, le tout dans la même soirée. Non. Il fallait la quantité. Mais je dois dire, moi je croyais que la qualité y était aussi. Et c'est là que je crois, j'ai appris surtout à aimer beaucoup le théâtre, et je suis resté au fond tout le temps, toute ma vie, un homme de théâtre, et beaucoup plus qu'un homme de cinéma.
Mais vous auriez voulu, dès ce moment-là, faire du théâtre de façon active. Enfin, vous ne vous contentiez
mais oui,
pas.
Je faisais partie d'un petit club, une société théâtrale d'amateurs, qui s'appelait le Club des 12, et dans lequel, d'ailleurs, a débuté Pierre Bertin. Et c'est là que Antoine a découvert un jour Pierre Bertin, au cours d'une de nos représentations, et qu'il l'a engagé pour venir à l'Odéon.
Pas vous? Vous, il ne vous a pas découvert là?
Ah, moi, il ne m'a pas découvert. Ah. Non, je ne jouais pas dans ce spectacle-là, malheureusement. Non, puis j'étais beaucoup plus jeune.
Oui, Bertin a dû arriver à Paris dans les années... Et à l'Odéon dans les années 11 ou 12.
Oui, naturellement. D'ailleurs...
Et vous n'y êtes arrivé qu'après la guerre.
Moi, je suis arrivé à la guerre de 14, puisque je ne suis arrivé à Paris que comme réfugié. Ah, j'ai été réfugié de Lille, n'est-ce pas? J'étais au conservatoire à ce moment-là. Et un jour d'octobre 1914, comme ça...
Au conservatoire de Lille?
Oui, au conservatoire de Lille, oui, bien sûr. Je parle toujours de Lille. Et un jour d'octobre 1914, l'ordre a été donné à tous les hommes et à tous les jeunes gens de quitter la ville. Et alors nous avons pris, mon père et moi, la route d'Armentières. Et il y avait une colonne qui faisait 20 kilomètres de long où tous les hommes ont marché toute la nuit. Puis dans la nuit, le bombardement a commencé. Mon père s'est assis sous une porte cochère et puis il m'a dit « Mon garçon, je crois que c'est fini ». Et puis, ça n'était pas fini, puisque deux jours après, nous étions arrivés, en faisant un petit peu de ce qu'on appelait pas déjà l'autostop, à Paris, où je suis resté, et où enfin mon rêve était réalisé, puisque Paris, c'était pour moi l'idéal, c'était la ville du théâtre par excellence. C'est là que j'ai retrouvé Pierre Bertin, et qu'il m'a présenté à l'Odéon. Et ainsi, j'ai débuté au théâtre, et mon rêve était réalisé.
C'était l'Odéon de Gaveau.
C'était l'Odéon de Paul Gaveau.
Paul Gaveau.
Et c'est au point de Paul Gaveau, je dois dire, que j'ai appris à comprendre la mise en scène. Car Paul Gaveau, qui était un vaudevilliste et un homme de théâtre très connu à l'époque, qui a laissé quelques œuvres charmantes d'ailleurs, Paul Gaveau était un merveilleux metteur en scène.
Vous avez joué beaucoup de rôles, là, à l'Odéon?
J'ai joué beaucoup de rôles. Je jouais naturellement les vieillards et les seconds commis.
Parce que vous étiez très jeune, bien sûr.
J'étais très jeune, j'avais 20 ans, naturellement. Et puis, comme on ne gagnait pas beaucoup d'argent, je gagnais à ce moment-là 50 francs par mois. Et on m'avait dit, on prend des figurants au cinéma de temps en temps et on gagne 15 francs la matinée, 10 francs l'après-midi, 15 et 10, ça faisait 25 francs dans la journée, c'était quelque chose de formidable.
C'était la moitié du mois.
La moitié du mois, c'était merveilleux. J'ai donc essayé de faire du cinéma en un peu de figuration et je me suis présenté un jour où on m'a dit d'aller au film d'art à Neuilly où j'ai vu un monsieur que j'ai su plus tard être monsieur Jacques de Baroncelli. Et je me suis essayé de m'approcher, il m'a regardé, il m'a dit « Qu'est-ce que vous foutez là, vous ?» Puis je suis parti, je ne suis jamais plus revenu. Et alors, ça a été mes débuts comme ça, mais j'ai fait des débuts bien plus précis comme acteur, au cinéma. parce que j'ai joué dans le Macbeth qui a été tourné par Le Bargy comme metteur en scène, et Maeterlinck recevait dans sa propriété l'abbaye de Saint-Vendry une troupe d'acteurs parmi lesquels il y avait Séverin Mars, Félix Gandera, Vandahel, Alcover et bien d'autres, n'est-ce pas? Ils recevaient tous ces acteurs et nous avions la mission de jouer Péléas et Mélisande et de tourner Macbeth.
Dans les ruines de l'abbaye.
Dans les ruines de l'abbaye. Alors, on a joué Péléas et Mélisande, et je me rappelle très bien, c'était une merveilleuse représentation. Et les scènes se passaient, vous savez, dans toutes les salles de l'abbaye, et même dans le jardin, la nuit, éclairée avec des projecteurs. C'était une représentation assez sensationnelle. Et dans Macbeth, alors que nous devions tourner, Séverin Mars jouait Macbeth, et moi, je jouais le fils de Duncan, d'un Albin. Et je devais simuler la fuite après l'assassinat. Et alors, Le Bargy me dit, monsieur, vous comprenez, vous arrivez de là-bas du fond, du château, et puis vous sortez par la grille ici, l'appareil était hors du château, devant la grille, et il y a un cheval attaché, vous sautez dessus, et vous partez. Je dis, je saute dessus. Mais je ne sais pas monter à cheval. Comment vous ne savez pas monter à cheval? Mais il se retourne vers la bruyère et dit, comment, vous m'engagez des cavaliers qui ne savent pas monter à cheval? J'ai dit, moi, on ne m'a pas demandé, enfin, je vais essayer. Alors, il dit, ça n'a pas d'importance, on verra ce que ça va donner. On a vu ce que ça a donné, parce que comme j'avais une côte de maille et puis une épée au côté, je me suis empêtré là-dedans et je suis tombé assis sur le cheval qui était malheureusement un énorme bourrin, puisque tous les chevaux avaient été réquisitionnés, et le cheval est parti en galopant lourdement sur une pente, et j'ai atterri dans un mur. Ça a été mes débuts au cinéma.
Mais en quelle année exactement tout ceci se passait-il?
Ben, ça se passait pendant la guerre de 14.
Pendant la guerre.
C'est-à-dire, je crois, en 16, mon Dieu, mais c'est épouvantablement loin, mais je crois que c'était à peu près dans l'année 1916. Et j'étais donc à l'Odéon, et puis j'ai fait mes débuts dans Le Dépit amoureux. Et j'ai fait des débuts, je vous le dis, sensationnels, parce qu'on a dû baisser le rideau quelque temps après mes premiers vers. Madame l'Empereur, qui était la souffleuse, m'envoyait, j'étais à un mètre de la souffleuse, elle m'envoyait les phrases, je n'entendais plus rien, j'avais un trou absolu, on a dû baisser le rideau. Ça a été comme ça mes débuts. Et puis, comme je pleurais dans ma loge, j'ai vu entrer un monsieur qui avait un cigare à la bouche, un gros monsieur, qui m'a dit, mais qu'est-ce que ça peut vous faire, ça? Vous n'êtes pas fait pour ce métier-là? Il faut faire autre chose. Pourquoi vous ne faites pas du cinéma? C'est un métier d'avenir. Vous devriez venir avec moi. Moi, je vous engage. Comment me connaissait-il? J'en sais rien. Peut-être savait-il qu'avait-il entendu dire que j'aimais passionnément le métier que je faisais à ce moment-là. Et peut-être qu'il avait une certaine rancœur contre le théâtre.
Puisque... Et contre l'Odéon, car c'est d'Antoine qu'il s'agit.
Oui, naturellement, c'est d'Antoine qu'il s'agit. Et alors, il avait une certaine rancœur contre le théâtre auquel il avait consacré sa vie, n'est-ce pas, et qu'il avait laissé tomber à cette époque. Et Antoine se vengeait, peut-être, et j'ai été un des petits éléments de cette vengeance, et c'est lui qui m'a fait venir à la Société cinématographique des auteurs et gens de lettres, et je suis devenu son régisseur. Je ne connaissais absolument rien au cinéma, mais enfin, je dois dire que les gens qui étaient à ce moment-là à la Société cinématographique des auteurs et gens de lettres, et Antoine lui-même ne connaissait pas davantage.
C'est ce que j'allais vous dire. Car vous avez débuté avec un débutant.
Et le premier film dans lequel j'ai collaboré, c'était 93. Parce que Antoine avait repris le film 93 qui avait été commencé avant la guerre.
Par Capellani.
N'est-ce pas, qui était un metteur en scène célèbre de l'époque. Mais quand nous avons repris 93, qui avait été tourné à moitié et qui était arrêté par la déclaration de guerre, nous l'avons repris 2 ans après, mais les acteurs n'étaient plus là, la plupart étaient mobilisés, certains étaient morts, ce qui fait que nous avons tourné 93, je dis nous avons tourné, quelle prétention, Antoine a tourné 93, n'est-ce pas, avec des gens qui étaient la plupart du temps de dos.
Alors vous avez fait avec lui...
J'ai
93,
fait, j'ai fait
et puis le premier film, il n'a pas signé 93. D'ailleurs, le film a été interdit par la censure pendant longtemps.
93, vous êtes plus renseigné que moi, parce que moi, je n'ai aucune mémoire de tous ces événements que je vous raconte. Là, il a fallu que je les gratouille un petit peu partout, parce que je ne me souviens de rien. Pierre Auré, il y a 2 ans, était venu me demander de publier mes mémoires. Je lui ai dit, mais je n'ai pas de mémoire. Je n'ai pas de mémoire au singulier. Pourquoi voulez-vous que j'en ai au pluriel? J'avais seulement trouvé le titre. Me souvenant de ma jeunesse, je voulais publier mes mémoires sous le titre de « Mémoire d'un autre âne ».
Oh, vous étiez sévère pour vous-même.
Non, je suis juste.
Enfin, vous avez donc fait avec Antoine Les Frères Corse, qui a
les
été
frères
son
Corse,
premier film, si je ne m'abuse.
Le Coupable.
Oh, mais avant, vous
les
en avez...
Les Travailleurs de la Mer.
Les Travailleurs de la Mer.
Ouais.
le coupable, et vous êtes allé jusqu'à l'Arlésienne?
Non, je n'étais pas dans l'Arlésienne.
Vous n'étiez plus dans l'Arlésienne?
Non, parce qu'à ce moment-là, j'étais passé avec un autre metteur en scène qui s'appelait Daniel Rich, et avec Denola et Jean Kem.
Ben, voilà des débuts extrêmement précis, extrêmement intéressants, et qui évoquent une grande figure, celle d'Antoine, qui était venu au cinéma parce que le théâtre ne voulait plus de lui.
Et qui, heureusement pour le cinéma, a détourné Julien Duvivier du théâtre.
Oh, je vous en prie, si vous continuez, je ne reviendrai pas la prochaine fois.
La radiodiffusion télévision française vous a présenté Entretien avec Julien Duvivier, une émission de René Jeanne et Charles Forbes.
Cet entretien a été diffusé pour la première fois sur la chaîne parisienne le 15 avril 1957. Une semaine plus tard, sur la même chaîne parisienne, les auditeurs avaient rendez-vous avec le même Julien Duvivier.
La radiodiffusion télévision française présente Entretien avec Julien Duvivier, une émission de René Jeanne et Charles Ford avec la collaboration de Simone Beauvois. Aujourd'hui, deuxième entretien.
Vous avez parlé, cher Duvivier, de vos débuts dans la carrière cinématographique en tant que régisseur d'Antoine, mais nous pensons que vous n'avez pas dû être long avant de vous rendre compte que vous pouviez faire mieux que d'être le régisseur d'un grand metteur en scène de cinéma et que vous avez eu envie de voler de vos propres ailes. Comment y avez-vous procédé ?
Bon, vous savez, c'est venu tout naturellement, parce que moi, je n'ai jamais été très ambitieux. Je faisais à ce moment-là du cinéma parce que ça m'amusait.
Mais je vous demande bien pardon, mais il y a, je crois, tout de même eu un stade intermédiaire. Vous avez bien fait des scénarios.
Oui, j'ai écrit quelques scénarios pendant que j'étais à l'Odéon, parce que j'essayais un petit peu d'augmenter ma matérielle. J'en ai écrit deux, trois. Il y en a un qui a été vendu, c'est déjà pas si mal. Un qui s'appelait, je crois, Crépuscule d'épouvante.
Ah oui.
Et qu'a tourné Étiévent, qui était un acteur très connu de l'époque, et qui l'a tourné comme metteur en scène. Étiévent a tourné Javert dans la première version des Misérables.
Oui, comme acteur, mais après, il a fait d'autres mises en scène aussi.
Et il a fait aussi d'autres mises en scène. Et alors, il a tourné ce film avec Francen et avec Charles Vanel.
Qui sont tous les deux toujours sur la brèche,
d'ailleurs. Ils sont toujours sur la brèche. Et puis, je n'ai pas travaillé qu'avec Antoine, j'ai travaillé aussi avec Daniel Rich, avec Jean Kem, et c'est ainsi qu'un jour, avec Daniel Rich, je me suis trouvé dans le Midi. Nous tournions des films en extérieur, à Arles, et puis à Cannes. Et un jour, nous nous trouvions à Marseille, et nous prenions l'apéritif sur la Canebière, et un garçon, un soldat, un peu rougeau, un gros fort, était assis à côté de nous, sur une table voisine, et il a dit, mais je vois que vous parlez cinéma, est-ce que vous, par hasard, vous feriez des films? Nous lui avons dit très fièrement que oui, et il s'est présenté, je m'appelle Gaston Mahon, je suis opérateur à l'armée d'Orient, dans le service cinématographique de l'armée, et je reviens de Salonique, vous permettez que je prenne un verre avec vous, nous l'avons invité, nous avons bavardé cinéma, et le lendemain, Gaston Mahon m'a dit, je suis démobilisé, je rentre à Bordeaux où j'habite et j'ai l'intention de monter une société de production.
Ah, bonne idée.
Bonne idée, comme vous croyez, ça n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il m'a posé la question, est-ce que vous croyez que vous seriez capable de faire de la mise en scène?
Qu'est-ce que vous croyez que j'ai répondu? Bien entendu que j'ai répondu. Capable de faire de la mise en scène, mais vous avez déjà entendu quelqu'un à qui on pose cette question et qui vous répond « Non, je ne suis pas capable de faire de la mise en scène ?» Voyons, ça paraît tellement facile. J'ai répondu immédiatement « Oui, et nous sommes partis pour Bordeaux quelques jours après, quand le film était terminé, et il m'a présenté un certain monsieur, Louit, dont on voit le nom sur beaucoup de pots de moutarde, car il fabrique de la moutarde, des condiments, des conserves, à Bordeaux. Ce monsieur Louit était un homme fort charmant, un petit peu farfelu, d'ailleurs à ce point farfelu que quelque temps après, il commanditait des avions qui ne volaient pas, des machines qui ne marchaient pas, si bien que sa famille a été obligée de lui mettre un conseil de famille. Mais nous avions eu le temps d'obtenir de lui une commandite pour le premier film que j'ai fait, les deux premiers films que j'ai
fait. Qui ont marché, eux?
Qui ont marché, eux, oui, car ça, ils ont retrouvé l'argent qu'il leur avait donné. C'est peut-être la seule fois où M. Louis est rentré dans son argent. Le premier film, donc, que j'ai fait s'appelait Assel Dama, avec M. Séverin Mars comme vedette. Et nous l'avons tourné dans des châteaux du Médoc, des environs de Bordeaux. Nous faisions nous-mêmes notre électricité. Ah, on tournait la manivelle. Et puis moi, je faisais la mise en scène et j'avais fait aussi le scénario pendant que j'y étais, pourquoi pas. Et c'était assez pittoresque parce que, comme nous devions faire cette électricité, nous avions une batteuse de blé. Nous n'avions rien d'autre. Il faut toujours se rappeler que c'était une époque héroïque. Nous avions une batteuse de blé avec une courroie qui partait tout le temps et Aon était obligé de faire l'électricien, ce qui fait qu'il ne faisait plus l'opérateur. Et moi, je suis devenu opérateur aussi. Alors j'ai tourné la manivelle et je tournais la manivelle sur le rythme de Gloire immortelle de nos aïeux, qui était le rythme sur lequel on tournait les films à ce moment-là pour que la prise de vue soit régulière.
Le rythme de ces images.
Le rythme de cette image. Et nous avions aussi un beau courage, car non seulement nous faisions les films, mais nous les développions. Nous avions monté un petit laboratoire, rue Péberlan, je crois, à Bordeaux, et nous développions nous-mêmes nos films sur des châssis. J'ai appris là le développement aussi, après avoir appris la prise de vue. C'était du travail artisanal. D'ailleurs, ça a toujours été le travail. Le cinéma était alors à ce moment-là. Il est toujours resté en France, un peu, mais oui. Il l'était particulièrement à cette époque-là. Et alors, ce fait de développer nos films nous-mêmes a causé une scène assez amusante. C'est qu'il y eut à Bordeaux un grand championnat de boxe. Je ne me rappelle plus je ne suis pas sportif du tout. Je ne me rappelle plus du tout les noms des boxeurs. Mais enfin, c'était un combat de boxe qui valait d'être enregistré sur la pellicule. Et le directeur d'un grand cinéma nous avait demandé de le tourner de façon à l'avoir en exclusivité dès le lendemain. À Gaston, on tourna le championnat. Il fit, comme d'habitude, des premiers plans, des arrière-plans, il changea d'objectif, etc., etc. Et il m'apporta le film, on le développa dans la nuit, et j'en fis le montage. Et alors, moi, je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un combat de boxe, car je vous le répète, je n'ai jamais été un sportif, je ne me suis jamais intéressé. Ce qui fait que la présentation, le lendemain, a fait un certain bruit. Et eux, ils voulaient une actualité, ils voulaient l'actualité du combat de boxe. Mais moi, je voulais un film bien monté, ce qui fait que j'avais fait un montage avec le film. J'avais pris des plans du troisième round, je les avais mis au premier round, du deuxième au quatrième, etc. C'est quelque chose d'assez pittoresque.
Pour les amateurs, c'était une hérésie.
Je vous promets que ça s'est passé assez drôlement.
Qu'est-ce qu'on vous a dit?
Nous n'avions pas le même point de vue, alors on ne pouvait pas discuter avec ces gens-là. Moi, je voulais un film bien monté, et eux, ils voulaient une actualité.
Oui, et vous avez fait un film sur la boxe et pas une actualité.
Alors, j'avais donc débuté comme ça dans la mise en scène. J'ai fait un deuxième film qui s'appelait « La réincarnation de Serge Renaudier ». Et ce pur chef-d'œuvre n'a jamais vu le jour parce que le négatif fut brûlé dans l'incendie de nos laboratoires, et ce qui a mis fin à l'expérience Louit et à l'expérience bordelaise. Il est retourné à sa moutarde.
Et vous,
qu'avez-vous fait? Et moi, je suis remonté à Paris.
Et alors, comment avez-vous continué cette carrière qui pourtant s'annonçait bien avec Assel Dama?
Mon Dieu, j'ai fondé une petite société avec des amis du Nord. Amis, je suis retourné dans le Nord, à Lille. J'ai dit, voilà, je suis un illustre metteur en scène. J'ai déjà fait deux films, vous vous rendez compte? Le cinéma, c'est une mine d'or. Je les ai persuadés que j'avais du génie et immédiatement, ils m'ont commandité et j'ai acheté les droits du livre de M. Henri Bordeaux, Les Roquevillards. Et vous voyez tout de suite, le choix de ces sujets tient tout à fait au conformisme dans lequel j'ai été élevé, n'est-ce pas? Et c'est d'ailleurs ce qui m'a valu par la suite d'avoir été considéré toujours comme un metteur en scène extrêmement conformiste et qui a provoqué les films catholiques que j'ai tournés, qui sont en grand nombre.
La tragédie de Lourdes, la vie de
Sainte-Thérèse, et beaucoup d'autres. Vous allez tellement vite. Il y a un autre film avant que j'ai fait avec cette société qui était L'Ouragan sur la montagne. Et L'Ouragan sur la montagne a été le premier film de collaboration franco-allemande qui ait jamais été fait. Parce que en 1920, alors que la guerre venait à peine de finir, naturellement, avait à peine 2 ans, et que l'Allemagne était absolument dans le quatrième dessous, dans le 36e dessous. Je me rappelle qu'on promenait les marques dans des wagons, n'est-ce pas,
pour l'inflation
était terrible. Et hein, je me suis décidé à aller, on m'avait dit, on fait des films à Munich. J'ai dit, tiens, je vais aller voir ces gens-là et je vais leur proposer une collaboration. Je suis parti à Munich et j'ai débarqué un matin, ne connaissant pas un mot d'allemand. Je suis descendu à l'hôtel, je ne me rappelle plus lequel, Münchenerhof, je crois, et j'ai demandé un interprète, je lui ai expliqué ce que je voulais faire, et il m'a dit, il y a une grande société ici qui s'appelle l'Emelka. Et alors nous sommes allés à l'Emelka, je leur ai dit, voilà, je suis un grand metteur en scène, j'ai une grande société, et nous allons faire un grand film si vous voulez. Et en 24 heures, j'avais traité cette affaire, eux faisaient tous les frais du film, et moi je n'avais à payer que les interprètes français. Les deux interprètes français du film ont été Jacquet et l'acteur du théâtre Montparnasse des Gobelins, le célèbre à cette époque-là, qui était Beuve, n'est-ce pas?
Oui.
Et nous avons tourné cet ouragan sur la montagne dans des circonstances assez particulières, parce que nous avons immédiatement causé la jalousie de tous les collègues allemands qui ne travaillaient pas et qui étaient en chômage. Alors, ils nous ont provoqué beaucoup de désagréments et j'ai été arrêté 5 ou 6 fois. Et 5 ou 6 fois le matin, vers 6-7 heures, on frappait à ma porte et je voyais régulièrement deux figures de flics qui se profilaient dans la porte. Et derrière, il y avait Gaston Aron qui me disait régulièrement « Frère, il faut mourir » et j'ai été emmené à la police. Et
c'était la Gestapo avant la lettre.
C'était la Gestapo avant la lettre. J'ai été arrêté 5 fois. On m'accusait de faire un film qui déshonorait la femme allemande. Et puis des tas de choses. Je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé comme raison. C'était pas très gentil. Et enfin, j'en suis très bien sorti. Et je leur ai laissé un négatif. Et j'ai emporté un négatif. Et j'ai fait encore une bonne petite affaire avec ce film, qui était un film policier.
Mais vous aviez tout de même aussi une équipe allemande avec vous, des interprètes. Il y avait Lotte Loring qui jouait le rôle principal, je crois.
Mais quelle mémoire, c'est effrayant. Vous pourriez dire le nom de la deuxième actrice?
Ah non, pas du tout.
Ah, bah moi non plus.
Ah, alors vous avez même... Et moi, je ne vous le dirai pas non plus.
Moi, j'avais même oublié que c'était
Lotte Loring. Je m'en souviens très bien.
Lotte Loring, qui était une charmante blonde.
Et c'est elle que vous déshonoriez?
Enfin, dans le film. Je faisais un film effroyable sur les femmes allemandes.
C'est vers cette époque-là, si je ne m'abuse, enfin au terme de cette première période de votre activité cinématographique, que vous avez fait un film dont l'originalité a frappé tout le monde et qui s'appelait « La machine à refaire la vie » et qui était le premier film dans lequel le cinéma servait à écrire l'histoire du cinéma.
Oui, ça c'est exact. Mais avant de faire La machine à faire la vie, j'avais été tourné à Bruxelles, je commençais déjà les voyages. Moi, j'ai toujours été attiré par les voyages. Après l'Allemagne, je suis parti en Belgique, j'ai fait un film qui était commandité par un ancien agent de police qui était père de 12 enfants. Et ce fut une expérience assez remarquable.
Vous aviez le don de découvrir des commanditaires pittoresques.
Alors, c'était un commanditaire excellent. Je me rappelle que lorsqu'il a été question de trouver un titre au film, je lui ai proposé, le titre allait avec le sujet, Prométhée enchaîné. Et alors je me souviens toujours que ce monsieur qui était énorme, qui était gros, rouge, était large comme une armoire à glace, m'a regardé longuement, n'a rien dit, et le lendemain je l'ai vu très soucieux, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et il m'a dit, mais vous savez, je n'ai pas encore compris pourquoi c'est promettre et enchaîner, qu'est-ce que ça veut dire dans ce film, n'est-ce pas? Bon, enfin bref, tout ça, ce sont des petites histoires. Mais oui, la machine à refaire la vie, ça a été, mon Dieu, oui, ça n'était pas un film, à vrai dire, puisque nous avions pris les films de tout le monde, et maintenant, on peut dire que la télévision fait ça journellement, n'est-ce pas?
Mais bien sûr, mais enfin, l'avoir fait en 1921 ou 22, c'est tout de même un mérite.
Nous avons retrouvé tous les... C'est rare. Nous avons retrouvé les documents des premiers films de Lumière. À ce moment-là, on n'avait pas encore fait ça. Et nous les avons rassemblés. Nous avons fait un spectacle d'environ une heure et demie, deux heures, qui a d'ailleurs été projeté pour la première fois dans un grand gala au Théâtre des Champs-Élysées.
Oui.
Les Allemands ont fait aussi un film qui s'appelait Der Film im Film, avec exactement la même chose, mais ils l'ont fait 3 ans après vous.
3 ans après.
Ah. Oui, oui, ça...
Vous voyez quel précurseur j'étais, hein, vous
voilà.
Ne s'en doutez
pas. C'est ce que nous disons tout le temps.
La radiodiffusion télévision française vous a présenté Entretien avec Julien Duvivier, une émission de René Jeanne et Charles Forbes.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 22 avril 1957. Après une semaine d'attente, Charles Ford et René Jeanne retrouvaient Julien Duvivier pour le 3e entretien de cette série de 8.
La radiodiffusion télévision française présente Entretien avec Julien Duvivier, une émission de René Jeanne et Charles Ford avec la collaboration de Simone Beauvois. Aujourd'hui, 3e entretien.
La machine à refaire la vie, film où vous parliez de l'histoire du cinéma, a marqué, je crois, pouvoir le dire, la fin de la première période de votre activité de metteur en scène. Après la machine à refaire la vie, sentant que vous aviez bien en main l'instrument dont vous deviez vous servir, vous vous êtes lancé dans des films beaucoup plus importants et dont certains ont déjà marqué une date dans l'histoire et dans l'évolution de l'art cinématographique. Je veux notamment parler de Poil de carotte, mais avant Poil de carotte, je crois qu'il y a quelques autres films auxquels vous avez travaillé et qui ne sont pas sans intérêt.
Vous êtes bien gentil de dire que je sentais avoir bien en main l'outil.
Vous en donniez l'impression à ceux qui voyaient vos films.
Je ne l'ai jamais cru et je ne le crois pas encore maintenant. Je crois qu'on ne connaît jamais le cinéma, je crois qu'on se trompe constamment. De temps en temps, on fait une petite réussite, mais je crois que le cinéma est une chose, un art que l'on apprend sans cesse. Et moi, pendant toute ma carrière, je n'ai pas arrêté de m'apercevoir que je ne connaissais rien.
Mais enfin, vos films ont donné très tôt l'impression d'une pleine maîtrise de votre métier et de votre art.
Vous êtes bien gentil, mais je crois que c'était surtout une maîtrise technique. Je crois que j'ai rapidement assimilé une technique qui était à ce moment-là tout à fait naissante, n'est-ce pas ? Et que j'ai essayé de la développer, car c'est surtout ce qui m'intéressait, toujours ce qui intéresse les jeunes metteurs en scène, c'est la technique, comme un jeune écrivain est intéressé par la technique d'écrire, n'est-ce pas ?
Surtout que ça se passait à une époque de formation. Et vous apportiez, chacun des metteurs en scène de l'époque, enfin des metteurs en scène dignes de ce nom, apportait quelque chose de nouveau, c'est indiscutable ça.
Alors j'ai rencontré de nouveaux commanditaires qui m'ont fait faire de nouveaux films. Il y avait, l'un des commanditaires était le propriétaire du théâtre Fémina, qui s'appelait Monsieur Richemont, qui était un homme de théâtre aussi. Et puis j'ai eu aussi comme commanditaire un fameux bookmaker qui était Monsieur Dumien.
Je pense bien.
Donc voilà la liste des
personnages. Qui était intéressé à de nombreuses affaires de théâtre.
Oui, j'ai fait avec lui la tragédie de Lourdes, avec Monsieur Dumien. La tragédie de Lourdes qui a coûtait très peu d'argent et qui a fait fortune d'ailleurs, fait la fortune de ses producteurs. Alors j'ai fait encore d'autres films, oui en effet, j'ai tiré un film de l'abbé Constantin, de Meillac et Halévy, avec Jean Coquelin, qui ne faisait pas de cinéma et que j'ai mis au cinéma. Et puis j'ai eu la curieuse idée, ah non, j'ai d'abord fait Poil de carotte, c'est exact, vous me le rappeliez tout à l'heure, j'ai fait Poil de carotte, j'ai à ce moment-là Feder voulait faire Poil de Carotte, et puis l'affaire ne s'était pas faite, et le producteur, qui était un certain monsieur Rosen, était venu me trouver. Il avait demandé si je voulais le faire, ça m'a intéressé énormément. C'est d'ailleurs un sujet qui m'a passionné toute ma vie, puisque je l'ai refait en parlant quelques années après, et que j'ai encore l'intention, avant de mourir, de le refaire une troisième fois en couleur, en relief.
Et en cinémascope.
Et en cinémascope.
Ah, moi, pour moi, Poil de Carotte est un des grands souvenirs de mes débuts dans la critique cinématographique.
Et vous voyez que là, il n'y avait pas que la technique, tout de même, dans Poil de Carotte.
Oui, mais
que
il y avait une humanité dans cette histoire, une humanité dans les personnages, qui forcément devait donner au film une classe. N'est-ce pas ? Le sujet, car c'est toujours d'abord le sujet qui donne la classe au film, et le sujet de Poil de Carotte est éternel, il est bouleversant, et forcément, on l'a dû le retrouver un peu dans le film.
Oui, le film touchait très profondément la sensibilité du public.
Et permettez-moi une parenthèse. Oui, justement, à propos de Poil de Carotte, j'ai remarqué que dans les premières années de votre carrière, et je pense d'ailleurs que vous avez conservé cette excellente chose, vous étiez très fidèle à vos interprètes. On retrouve justement Henri Cros, on retrouve Gaston Jacquet. C'est sans doute que vous aviez avec eux des affinités, et pas seulement. Que
oui, c'est exact, et j'ai toujours essayé de m'entourer des mêmes équipes, des mêmes acteurs. Chaque fois que je l'ai pu, je l'ai fait. Et avec moi, par exemple, maintenant, j'ai une monteuse à l'heure actuelle qui travaille avec moi depuis 35 ans. Et Madame Marc Poncin est avec moi depuis 35 ans.
Bravo.
Voilà. Alors, j'ai fait Poil de Carotte. Ça n'a pas été d'ailleurs sans difficulté, parce que le producteur était plein de bonne volonté, mais démuni d'argent. Et alors, nous tournions le film, je ne sais pas pourquoi j'avais choisi ça d'ailleurs, dans les Alpes, du côté de Guillestre. Et alors, nous étions partis pour faire les extérieurs, et ils ne nous envoyaient pas d'argent. Alors, au bout de 2-3 jours... nous avons décidé d'arrêter de tourner, mais de rester là. Alors nous restions à l'hôtel, nous allions faire des promenades, des pique-niques, et chaque fois nous faisions une petite photo du pique-nique, de la promenade, et puis nous l'envoyons au producteur. Alors au bout de 8 ou 10 photos, il nous a envoyé de l'argent, nous avons pu continuer le film.
Il a apprécié cette sorte d'humour.
Oui, je crois que c'est à suggérer au jeune metteur en scène qui se trouve en pareille situation.
Parce que voilà une chose qui n'a pas changé. Il y a encore des équipes qui se trouvent sans argent en extérieur.
Oh, oui, quelquefois, c'est arrivé encore tout récemment. Oui. C'est à ce moment-là alors que j'ai rencontré Vandal et Delac à l'issue de la projection de
Poil de
Carotte.
Et
Vandal m'a dit, venez donc me voir demain matin. Et il m'a proposé un contrat, je suis resté avec eux 7 ans. J'ai fait pour Vandal et Delac une quantité industrielle de films, avec L'île d'Agovert, avec Maria Jacobini, avec France de Lederer, Dita Parlow. J'ai tourné L'homme à l'Hispano, avec un jeune premier que j'avais trouvé dans la figuration d'un film d'Herville, qui s'appelait Georges Galli, et qui est maintenant curé de Sanary. Oui, il a quitté le cinéma pour devenir curé de Sanary.
Après avoir fait un semblant de belle carrière dans les studios anglais.
Ah oui, je savais même pas.
Car il n'a tourné qu'un film en France, c'était L'homme à l'Hispano avec vous, et ensuite il est parti pour l'Angleterre. Et de là, il est entré dans les ordres.
C'est une époque où j'aimais le cinéma alors passionnément, et je n'ai pas fait d'œuvres très significatives, il faut bien le dire, mais en tout cas... si j'en ai fait quelques fois, ce n'est pas à cette époque-là. Mais je l'aimais. J'ai tourné L'agonie de Jérusalem, qui m'a emmené sur les lieux où se déroulait l'histoire du Christ dans l'Écriture. N'est-ce pas ?
Encore un voyage.
J'étais attiré d'ailleurs uniquement par le voyage. Chaque fois que je cherchais un film, je cherchais un voyage à faire, parce que j'estimais qu'il y avait un dépaysement qu'il était nécessaire d'apporter au cinéma.
Et puis le pittoresque du cadre.
Le pittoresque ajouté toujours au film. C'est d'ailleurs au cours de l'agonie de Jérusalem que j'ai commencé à subir une crise morale qui a eu son dénouement quelques temps après, où je suis devenu l'horrible mécréant que je suis resté depuis.
Et pourtant,
oui. Mais La Divine Croisière, La Vie Miraculeuse de Thérèse Martin, voilà encore des films empreints de l'esprit catholique dans lequel j'ai été élevé.
Et quand vous êtes allé en... que l'on appelle aujourd'hui Israël. C'était la première fois qu'une troupe de cinéma venait tourner.
C'était la première fois.
Car le nombre des films consacrés à la Passion est considérable.
Non, je voulais faire le film. C'était une histoire moderne dans laquelle il y avait, une évocation de la vie du Christ sur les lieux mêmes où elle s'était déroulée selon l'Écriture. Ça a été une recherche assez passionnante et d'ailleurs assez décevante. Je n'ai jamais vu une telle déception que lorsque j'ai débarqué à la gare de Jérusalem. Et cette déception a été en s'aggravant au fur et à mesure que je traversais Bethléem, Nazareth, la vallée de Josaphat, le jardin des Oliviers, et tous ces lieux qui chantaient dans ma mémoire,
et c'est à cette déception,
qui évoquaient bien des choses que je n'ai pas trouvées.
Et c'est à cette déception, sans doute, que le film que vous avez refait sur le même sujet quelques années plus tard, Golgotha, a dû de ne pas être tourné sur les lieux mêmes.
Ah oui,
quand vous êtes allé.
C'est une des raisons, parce que je voyais qu'il n'y avait rien à reprendre dans le côté physique des lieux. Par conséquent, on pouvait mieux les évoquer à Alger, où nous avons tourné le film près d'Alger, à Fort de l'Eau, mais nous sommes déjà dans le film parlant maintenant.
Bien sûr.
Car nous y viendrons plus tard. Oui.
Avant d'aller au film parlant, j'ai encore tourné.
Je m'excuse de cette allusion à l'avenir, mais enfin, il m'a semblé, dans ce que vous disiez, voir la raison pour laquelle vous aviez tourné Golgotha en Afrique du Nord.
C'est une des raisons, en effet. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu encore ? Maman Colibri, et ce sont les deux films qui ont été tournés alors que le cinéma parlant commençait déjà en Amérique, puisque quand Maman Colibri a été terminé, il sortait déjà un film parlant à Paris.
Oui, c'était la Maman Colibri dans laquelle vous aviez
Maria Jacobini.
Dans le rôle créé par Berthe Badie au théâtre.
C'est ça.
Et Frank Lederer qui a poursuivi une carrière brillante en Amérique sous le nom de Francis Lederer.
Nous pouvons donc mettre là, mon cher Duvivier, me semble-t-il, le point final à votre collaboration avec le cinéma muet.
Oui, il faudrait tout de même que je rappelle que, par exemple, j'ai eu un décorateur qui s'appelait, au film d'art, M. Christian Maudet. Et que Christian Maudet était Christian Jacques, n'est-ce pas ? Et que mon régisseur, à l'époque, s'appelait M. Berthomieux.
Eh bien, vous avez eu des collaborateurs qui, à leur tour, place dans le cinéma.
J'ai même fait débuter René Lefebvre dans un film qui est vraiment un défi, puisque il s'appelait Le mariage à Mademoiselle Belmont. C'était vraiment une idée saugrenue de faire un film basé sur l'accent
en
film muet, n'est-ce pas ? Mais en fait, j'avais remplacé l'accent par des coutumes belges, et ça avait un certain pittoresque malgré tout, et René Lefebvre a débuté là-dedans.
Avec, dans le rôle de Mademoiselle Belmont, la charmante André Brabant, si je ne me trompe.
C'est ça, André Brabant.
Et un comique belge, un acteur belge de grande réputation,
Gustave
Libon. Cette fois-ci, le point final est bien mis à la période muette de votre carrière.
Oui.
La radiodiffusion télévision française vous a présenté Entretien avec Julien Duvivier, une émission de René Jeanne et Charles Forbes.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 29 avril 1957. Sans attendre, voici le quatrième rendez-vous de cette série, diffusée pour la première fois le 6 mai 1957.
La radiodiffusion télévision française présente Entretien avec Julien Duvivier, une émission de René Jeanne et Charles Ford avec la collaboration de Simone Beauvois. Aujourd'hui, quatrième entretien.
Avec la dernière émission, nous avons mis le point final à la période muette de votre carrière. Aujourd'hui, nous allons attaquer la période parlante. qui, je crois, a une importance particulière pour vous, car il me semble me souvenir qu'un jour, vous m'avez dit que c'est à partir du moment où le cinéma s'est mis à parler qu'il vous a intéressé encore plus particulièrement que lorsqu'il était muet, parce qu'il vous rapprochait ainsi du théâtre. Est-ce exact ?
C'est absolument exact, parce que je vous l'ai dit au début, et c'est resté toujours vrai, je suis un homme de théâtre, au moins je me considère comme un homme de théâtre, j'aime le théâtre par-dessus tout, et lorsque le cinéma est devenu parlant, il a ajouté le texte à l'image, à ce moment-là, je me suis senti à l'aise.
Je m'excuse de vous dire ça, mais il y a tout de même quelque chose de paradoxal là-dedans, parce que vous dites que vous êtes un homme de théâtre, et toutes vos œuvres de cinéma sont des œuvres typiquement cinématographiques.
Vous n'avez jamais fait de théâtre filmé, en somme. Ce que l'on appelle le théâtre filmé et que l'on reproche à tant de vos confrères.
Mais si vous essayez de me mettre dans l'embarras, vous y réussissez. Moi, c'est... Je ne peux pas vous dire autre chose. Moi, je me sens...
Mais nous vous en félicitons.
Oui, justement.
C'est ça qui est magnifique.
Nous vous en félicitons et vous avez trouvé des éléments dramatiques dans des œuvres qui ne venaient pas du théâtre. Il faut d'ailleurs reconnaître que pour vos débuts dans le cinéma parlant, vous avez eu la chance de tomber sur une œuvre romanesque, une œuvre littéraire d'une très grande valeur, je veux dire le David Golder, d'Irène Némirovski, qui marque une date dans l'histoire du roman français de l'entre-deux-guerres.
Oui, j'ai rappliqué plutôt un matin dans le bureau de Vandal avec, en tenant en main le livre David Golder d'Irène Némirovski que je venais de lire et qui m'avait absolument enthousiasmé et bouleversé. Je dis, voilà le film qu'il faut faire, et alors c'est typiquement un film parlant. Le Vandal l'a lu, a trouvé que j'avais raison, nous avons décidé de faire le film, et nous avons dit, mais qui peut jouer le rôle de ce financier juif, de cet énorme personnage? Et à ce moment-là, il y avait un acteur qui avait tourné beaucoup dans le muet, mais qui depuis 2-3 ans avait été abandonné par tout le monde, attendu que ses fantaisies l'avaient rendu très dangereux à employer. Je me souviens que dans les derniers films qu'il avait tournés à la Société cinématographique des auteurs gens de lettres, avec Pierre de Courcelles, comme metteur en scène d'ailleurs, il avait quitté les prises de vue, il était parti à Deauville pendant le film.
Et par-dessus le marché, dans le petit monde des studios, il avait la réputation de porter malheur aux films dans lesquels il paraissait.
Eh bien, moi, je ne savais pas qu'il avait la réputation de porter malheur, mais je savais qu'il avait la réputation d'un caractère épouvantable et d'un être absolument dangereux à manipuler. Et je suis allé le trouver, je l'ai amené, j'ai réussi à convaincre Vandal, et nous avons sympathisé tout de suite avec Bohr, qui était un acteur merveilleux, qui était le théâtre incarné, n'est-ce pas, qui avait une passion pour le théâtre, mais absolument délirante. Et je lui ai fait tourner David Golder, et ça a été le départ de sa grande carrière dans le film parlant. Et je l'ai gardé, d'ailleurs, j'ai été fidèle, j'ai tourné 6 films avec lui. Chaque fois que j'ai pu, je l'ai pris. De temps en temps, il fallait bien que je m'arrête, parce que j'avais rencontré entre-temps Jean Gabin, et que j'ai fait 7 films avec Jean Gabin, alors ça fait déjà 13.
Oui. Toujours en série.
Toujours. Non, parce que j'ai alterné les uns et les autres. Bref, donc, je me suis senti à l'aise, et puis David Golder, ça s'est vu tout de suite que je me suis senti à l'aise, quoique les difficultés des prises de vue sonores étaient très grandes à l'époque, attendu qu'on ne savait pas qu'on pouvait monter des films, monter des plans comme on les montait en film muet.
Mais vous aviez
comme on les monte maintenant.
Vous aviez improvisé une technique muette, vous avez improvisé une
technique
parlante.
J'ai improvisé avec l'ingénieur du son, qui était Stork, un Allemand qui venait de la Tobis. Nous avons improvisé une technique qui a fait ses preuves, parce que le film est encore visible maintenant, qui est tout de même assez rare, attendu qu'il a 25 ans, 26 ans, et qu'il a un des premiers du cinéma parlant. Après ça, alors, nous étions bien lancés, et j'ai tourné Les 5 gentlemen maudits, qui était un film qui avait été tourné en muet par M. Luitz-Mora. C'était un très beau sujet. C'était l'histoire de 5 jeunes gens qui se rencontraient au cours d'un voyage qui était, en fait, le voyage se passait au Maroc, qui était maudit par un mendiant, une espèce de mendiant arabe dont il s'était moqué, et qui lui dit, et ce mendiant leur disait, toi tu mourras le premier, toi le deuxième, toi le troisième, toi le quatrième et toi le cinquième. C'était donc un film à suspense, attendu que le premier mourait, le deuxième mourait, etc., etc., etc. Et puis, le scénario a beaucoup intéressé, et le scénario était très astucieux. Et nous avons tourné ce film en deux versions, en version allemande et en version française, c'est-à-dire que j'avais deux troupes. J'ai emmené ces deux troupes au Maroc, et nous avons commencé les extérieurs. Et un jour que nous étions en train de tourner auprès de Moula Idriss, nous étions assis sur des pierres et nous déjeunions. Et un mendiant qui passait, un arabe qui passait, s'est tourné vers nous et s'est mis à nous invectiver. Naturellement, nous ne comprenions pas ce qu'il disait. Et nous sommes tournés vers le type que nous avions engagé comme interprète. Et qu'est-ce qu'il dit? Il nous a répondu, il vous maudit parce que vous êtes assis sur des pierres du cimetière. Eh bien, cette malédiction, on croira si on veut, mais cette malédiction s'est réalisée.
La fiction devenait une réalité.
Oui, la fiction est devenue une réalité. Tous les acteurs, aussi bien les Allemands que les Français, sont tous tombés malades les uns après les autres. Nous avons mis 3 mois pour faire les extérieurs, là où nous devions mettre 1 mois. Moi, j'ai attrapé une paratyphoïde. La femme d'Aribor est morte pendant son séjour là-bas. Quand nous sommes rentrés au studio, il y avait un décor de planté qui représentait un hall d'hôtel. Il a flambé dans la nuit de notre arrivée. Quand le film s'est terminé avec des difficultés insensées, et lorsque il a été terminé, le soir de la première à Marivaux, il a été saisi dans la cabine par la veuve de Luitz Mora, qui prétendait que j'avais plagié, et en effet, je l'avais plagié, mais tout à fait inconsciemment. Oui. J'avais pris une idée, nous avions acheté les droits du scénario à son auteur, qui n'était pas Luitz Mora, mais il y avait une idée dedans qui lui était personnelle, et j'en avais été inconsciemment, je l'avais utilisée, je croyais qu'elle était mienne, et le film a été saisi, attaqué par plagiat, et nous avons perdu le procès. Et lorsque le film est sorti à New York, dans la cabine de projection, il a brûlé le soir de la copie a brûlé le soir de la première. Par conséquent, je peux dire qu'il n'y a pas que les 5 gentlemen qui étaient maudits.
Oui, le film lui-même était maudit.
Le film a été maudit.
C'est vraiment une histoire extraordinaire.
Et c'est une histoire authentique.
J'en suis bien convaincu.
Après cela, nous avons alors fait Allô Berlin, ici Paris.
Est-ce que ce n'était pas dans ce film que pour la première fois, il y avait des personnages allemands qui parlaient allemand et des personnages français qui parlaient français?
Oui. Les personnages parlaient les deux langues. D'ailleurs, la même copie a été projetée le même jour à Berlin et à Paris, dans la même version. Il n'y avait pas de modification.
C'est donc encore un film qui, dans l'histoire et dans l'évolution de l'art cinématographique, marque une date.
Oui, et cette présentation...
Je ne l'ai pas fait exprès, mais il se trouve que j'ai été le premier à ce moment-là à vouloir le faire.
Mais avec cette présentation simultanée dans les deux villes, vous avez devancé de 25 ans, si tous les gars du monde.
Mais je vous dis quel précurseur j'ai été, c'est fou.
Vous voyez, vous le dites en riant, j'assure que c'est plus sérieux que vous ne le pensez.
Pas tout à fait.
Le tribunal appréciera.
Après quoi, vous êtes revenu, si je ne m'abuse, à poil de carotte.
Non, je suis revenu à la tête d'un homme.
À la tête d'un homme.
J'ai fait la tête d'un homme d'après un roman de Simenon, que je ne connaissais pas du tout, et que je n'ai pas pu connaître du tout, car quand on lui a acheté les droits, on lui a demandé s'il voulait voir le scénario que nous en avions tiré, il a dit qu'il s'en foutait éperdument.
Oui.
Bon, et c'est d'ailleurs, il a continué à se ficher éperdument des scénarios qu'on tire.
Et c'était
le premier livre
de Simenon qui était porté à l'écran.
Mais je dois dire qu'à ce moment-là, je voulais avoir son opinion parce que je craignais qu'il y ait de sa part à la sortie du film une mauvaise réaction, attendu que j'avais tourné le film à l'envers du roman. Alors que le roman était une énigme policière, moi j'en avais fait le contraire, c'est-à-dire qu'on voyait au début du film le crime, l'assassin, on savait qui c'était, et le film que j'avais fait, c'était comment la police va-t-elle retrouver ce type que tout le monde connaissait.
Oui, vous avez mis le public dans la confidence, qui est bien plus difficile d'ailleurs.
Tandis que le livre était l'inverse, c'était une énigme policière qui se terminait par qui est le coupable, le voici. Et puis, alors, j'étais... tant et toujours par poil de carotte depuis que le cinéma avait été parlant, parce que vraiment, j'avais senti tellement combien le texte de Renard manquait au film muet que j'avais tourné. Et alors, j'ai pu convaincre Aribor et j'ai pu convaincre Vandal de le refaire. Et c'est là que j'ai trouvé Robert Linel, un jour en descendant du 44 Champs-Élysées, du 63 Champs-Élysées, où étaient les bureaux de Vandal et Delac. J'ai rencontré, qui attendait l'autobus, un garçon maigre qui avait le squelettique avec des yeux extraordinaires Et je cherchais depuis déjà quelque temps un garçon, un gosse pour jouer Poil de Carotte. Et ce garçon, il était avec une dame un petit peu chiffonnée, et je l'ai interrogé, et j'ai vu que la dame parlait assez mal le français, et je lui ai expliqué la chose, elle ne voulait pas croire, elle ne voulait pas comprendre, mais bref, j'ai réussi à la convaincre, c'était Robert Linen. Robert Linen, et je voudrais tout de même en parler, parce qu'il a eu la destinée la plus extraordinaire qu'un jeune homme puisse avoir. C'était un garçon d'une sensibilité étonnante qui s'est révélé un acteur prodigieux. Il réagissait à toutes les directions d'une façon merveilleuse. Je n'ai jamais trouvé un gosse aussi compréhensif. Et c'était un gosse très malheureux. Son père était artiste peintre, sa mère était une ancienne girl d'un music hall anglais, et ils habitaient sur la zone, dans une cahute misérable, et ils ne mangeaient jamais de viande parce qu'en plus, ces deux braves gens de père et de mère étaient végétariens. Moi, quand j'ai vu ce gosse si maigre et que j'ai commencé à le faire tourner, j'ai commencé à lui donner des beefsteaks et j'ai vu que le garçon aimait ça. Donc, ce père, cette mère ont gagné de l'argent grâce à Robert Linen et ils ont pu prendre un appartement et quitter leur zone. Un 1er janvier, nous étions dans le bureau avec Vandal et on nous a fait passer la carte de Robert Linen, car le père s'appelait aussi Robert Linen, et il était marqué ceci. Robert Linen, artiste peintre, quel numéro je ne sais plus, avenue du Parc Montsouris, et en dessous, ascenseur. C'est extraordinaire parce que cet homme qui avait vécu au ras de terre sur la zone, n'est-ce pas, n'avait probablement qu'un rêve, c'était d'habiter très haut et d'avoir un ascenseur pour accéder à sa demeure. Le drame, c'est que un an après, Robert Linen, le père, a été pris d'une crise de délire dans la nuit et s'est jeté du haut de
son
appartement
et
tombé dans la cour et s'est tué. Le drame, d'ailleurs, a continué dans cette famille puisque Linen, pendant l'occupation, a été fusillé par les occupants.
Nous l'avons connu à Marseille, fort des mois, quelque temps avant son arrestation.
Il avait tourné un dernier film avec Jean-Paul Polin, film qui s'appelait Cap au large, et il a été arrêté tout de suite après.
La radiodiffusion télévision française vous a présenté Entretien avec Julien Duvivier, une émission de René Jeanne et Charles Faure.
Ces quatre premiers volets d'une série de 8 entretiens avec Julien Duvivier ont été diffusés les 15, 22, 29 avril et 6 mai 1957. Rappelons que 3 films de Julien Duvivier, films parlants, viennent de sortir en DVD et Blu-ray après restauration par Pathé Film. Le premier, emblématique de la période du Front Populaire, La Belle Équipe, avec Jean Gabin et Charles Vanel, dans une version avec fin pessimiste, mais aussi en bonus avec sa fin optimiste. Mais aussi La Fin du Jour, avec Louis Jouvet et Michel Simon. Et enfin, voici Le Temps des Assassins, avec Jean Gabin et Daniel Delorme. Vous pourrez réécouter ces 4 premiers entretiens en ligne durant 1000 jours ou les télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. À suivre.